Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et ce matin, pour évoquer la crise des Gilets jaunes et les différents développements politiques de cette crise, je reçois Thierry Pech, le directeur du think tank Terra Nova. Thierry Pech, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, votre point de vue sur ce qui est en train de se dérouler avec aujourd'hui dans la presse des commentaires qui sont extrêmement forts, par exemple celui de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui évoque une menace pour la République. Qu'en pensez-vous ?
Une menace pour la République, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on était la semaine dernière face à une crise sociale qui est devenue cette semaine une crise politique. Et d'où pourrait surgir demain une crise de régime. Donc je pense que c'est une situation qu'il faut prendre très au sérieux. Le mouvement qui se déploie sous le nom de Gilets jaunes fédère non seulement des gens sur des ronds-points, dans la rue, etc., mais s'accompagne aussi, si vous voulez, d'un très grand nombre de gens qui ont des raisons diverses et contradictoires de se satisfaire, voire de se réjouir de ce qui est en train de se passer. À gauche, à droite, dans la presse engagée de tous bords, dans différents milieux sociaux, on voit d'ailleurs un très fort soutien populaire à ce mouvement. Et donc je pense qu'on est face à un phénomène dont le potentiel déflagrateur est très important. Même si ce mouvement, et c'est une de ses caractéristiques, et finalement assez peu nombreux, si tant est qu'on sache vraiment les compter, et même si il n'a pas d'organisation stabilisée, même si il n'a pas de cœur sociologique tout à fait évident. C'est un mouvement de la multitude, d'une certaine façon, de l'âge des réseaux, qui est fédéré par une communauté d'épreuves. C'est la question fiscale qui rassemble ces gens.
Comment l'expliquez-vous, le surgissement de ce mouvement? Qu'est-ce qui aurait pu être un signe annonciateur de ce qui est aujourd'hui en train de se dérouler en France?
Je crois qu'il y a deux facteurs. Il y a un facteur social et il y a un facteur politique. Le facteur social, c'est la question du pouvoir d'achat. C'est la question qui rassemble ces gens. Et c'est une question sérieuse. On a eu depuis 10 ans à peu près 8% de croissance, donc 0,8 par an. Mais quand on regarde l'évolution, si vous voulez, du revenu arbitrable des ménages, c'est-à-dire ce qui vous reste une fois que vous avez payé les dépenses contraintes, les dépenses préengagées, les abonnements, le loyer, etc., la croissance, elle est beaucoup plus faible. Elle est beaucoup, beaucoup plus faible. Ça, elle est entre 1 et moins 1 selon les milieux. Ça veut dire que même avec 10% de croissance, on arriverait à peine à maintenir le niveau de vie des gens. Ça veut dire ça, 1% par an. Bon, on peut peut-être faire un peu mieux, mais on a fait moins bien depuis 10 ans. Et donc, il y a dans les couches populaires stables et les classes moyennes inférieures, qui sont à peu près les milieux qui se mobilisent aujourd'hui, on ne parle pas des plus pauvres, on ne parle pas des plus riches, il y a une vraie usure par sur le pouvoir d'achat chez des gens pour qui l'accès à la société de consommation est une forme de réalisation sociale. Bon, ce qui est le cas de beaucoup de Français, mais singulièrement dans ces milieux. Donc vous avez ce facteur-là qui est très important, et puis vous avez un facteur politique, c'est que on a vu se mettre en place en France un régime en 2017 qui se caractérise par sa verticalité. Alors Emmanuel Macron n'a pas inventé l'institution présidentielle, qui était déjà dans une forme d'apothéose institutionnelle depuis l'alignement des mandats législatifs et présidentiels avec le quinquennat, mais il l'a encore plus verticalisé. Le Parlement est une espèce de troupe de fantassins relativement aux ordres. Les ministres ont de tout petits cabinets. Le Premier ministre est un exécutant de la volonté présidentielle, et on a le sentiment que toutes les décisions se prennent à l'Élysée, entre quelques personnes, si vous voulez. Et donc, dans ce contexte-là, alors les Français ont acheté cette idée de l'homme providentiel. Mais ce qui va avec cette idée de l'homme providentiel, c'est que, puisqu'il a toutes les responsabilités, on lui fera tous les reproches. Et je trouve très étonnant que, par exemple, dans un moment où la question du pouvoir d'achat est aussi tranchante, il y ait très peu d'adresse du mouvement à destination des entreprises, du patronat, des employeurs. Emmanuel Macron et le gouvernement décident certainement de la fiscalité, mais pas des salaires.
Et donc il vous décide avez... du SMIC, ou il pourrait en décider.
Oui, alors il y a effectivement cette question du SMIC, on pourra y revenir si vous voulez. Mais beaucoup des gens qui se mobilisent, certains sont au SMIC, d'autres sont au-dessus du SMIC. Donc la conflictualité s'est entièrement installée sur un axe politique. Et ça, c'est le résultat de cette apothéose de l'institution présidentielle qui est probablement le meilleur ressort de son déclin futur. La roche tarpéienne est très proche du Capitole en cette matière. On croit avoir construit une institution inoxydable, d'une légitimité inébranlable, et en concentrant sur elle tous les pouvoirs, en réalité, je pense qu'à long terme, on l'a affaibli.
Votre think tank, Terra Nova, a fait une étude, a consacré une étude aux adhérents de La République En Marche. Quel est le profil de ces gens? Est-ce que l'on peut dire qu'on a affaire à différentes Frances qui se parlent de moins en moins, Thierry Pêche?
Alors, les adhérents de La République En Marche, c'est-à-dire les militants de cette organisation, qui compte quand même, enfin, au moment où on a fait l'étude, en mai-juin dernier, 390 000 adhérents, ça fait quand même beaucoup de monde, beaucoup plus que dans tous les autres partis connus. Ces adhérents, ils ont un profil sociologique très peu fidèle à ce qu'est la société française. Mais c'est le cas des autres partis politiques aussi, d'une manière générale, pour ce qu'on en sait. Ce sont des hommes, beaucoup plus que des femmes. 68% des cas sont des hommes. Mais ça, c'est vrai dans les autres partis aussi, à peu de choses près. Ce sont des gens beaucoup plus diplômés que la moyenne de leurs concitoyens. Mmh. Ça, c'est vrai dans les autres partis aussi. Sauf qu'à La République En Marche, ils le sont beaucoup plus encore que dans les autres partis. Donc on a affaire à une France, à une frange de la société, si vous voulez, qui est faite de catégories sociales supérieures, de CSP, cadres, professions libérales, très diplômés, et dont la hiérarchie des préoccupations ressemble assez peu à celle des Français. Quand vous leur demandez quelles sont vos principales préoccupations, ils vous disent, certes le chômage arrive en tête comme pour l'ensemble des Français, mais derrière c'est, et presque à égalité, l'Europe et l'éducation et la formation. Ce qui est très surprenant. Et ensuite, les inégalités, l'environnement arrivent, mais plutôt au milieu de tableau. Et tout en bas, vous avez toutes les grandes questions régaliennes, l'immigration, l'insécurité, etc.
Mais alors, est-ce que c'est ça qui peut expliquer aussi, non pas l'isolement du pouvoir, mais le fait, finalement, qu'on ait affaire à un pouvoir qui soit préoccupé par un certain nombre de questions qui sont assez éloignées de ses préoccupations de l'ensemble des Français?
Je ne pense pas, en fait, parce que, voyez, cette organisation qui a effectivement des caractéristiques sociodémographiques assez atypiques par rapport au reste de la société, elle a été capable de distribuer plus de 40 millions de tracts lors de la campagne présidentielle de 2017. Elle était partout. Elle a fait un nombre de réunions incalculable. Elle a été très mobilisée et elle s'est déplacée un peu partout dans la société. Ce qu'ont pu faire également des militants d'autres organisations, je pense au Rassemblement National ou à la France Insoumise. Mais de ce point de vue-là, elle a été plus efficace que des organisations plus classiques. Donc, ça n'est pas parce que les militants ont un profil sociodémographique atypique qu'ils ne vont pas au-devant du reste de la société. Je pense en revanche que le parti n'a pas trouvé sa place dans le régime qui s'est mis en place en 2017. Il aurait pu être utilisé... certes pour défendre la politique de la majorité, c'est toujours le rôle d'un parti majoritaire, mais aussi pour faire remonter des attentes des Français, des territoires, et ça, il ne l'a pas fait, il l'a peu fait, ou alors il a été peu entendu. Toujours est-il qu'il aurait pu être une courroie de transmission entre la réalité sociale vécue un peu partout en France et le pouvoir, et au fond... il n'a pas joué ce rôle ou on ne le lui a pas demandé.
Mais alors pourquoi justement? Alors si on ne le lui a pas demandé, c'est une partie de la réponse peut-être, Thierry Pêche. Mais pour le reste, est-ce que ça signifie que c'est un mouvement, ça n'est pas un parti? Est-ce que ça signifie que lorsque les partis sont trop jeunes, eh bien ils rassemblent des personnes qui ne sont pas à même d'être de véritables militants au sens traditionnel du terme?
Non, je pense que la difficulté de cette organisation, on pourrait le dire d'ailleurs d'autres organisations, c'est que elle répond à peu près au profil de ce que certains politistes ont appelé un parti personnel. Un parti qui a été fondé par une personne, autour d'une personne, et qui vit beaucoup de l'admiration pour cette personne. Et la difficulté de ces partis, c'était le cas de Forza Italia en Italie avec Berlusconi, c'est plus ou moins le cas du Front National avec la famille Le Pen, c'est plus ou moins le cas de la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon.
Et oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression aussi que des partis comme ça. Ce type de parti se multiplie et lorsque
et à l'inverse, la fragilité de ces partis, c'est d'indexer leur avenir sur le destin du créateur, du fondateur. Et je pense que la difficulté, donc, c'est de s'émanciper de ce moment de fondation. Et ça, c'est un travail qui n'a pas été fait à La République En Marche, mais qui n'a peut-être pas été fait non plus dans les autres partis que j'ai cités. Simplement, ils ne sont pas au pouvoir. Bon. Et je crois que ça a beaucoup, tétanisé, ou en tout cas empêché La République En Marche de jouer un rôle différent.
Mais alors, justement, comment expliquer qu'il y ait aujourd'hui des partis qui soient axés autour d'une personne, tandis que les partis qui sont démunis de cette personne providentielle, eh bien, sont des partis qui, aujourd'hui, ont beaucoup de mal à se faire entendre. Je pense, par exemple, au Parti Socialiste.
Vous posez la question de la personnalisation de la vie politique à travers cette interrogation. C'est ça qui est frappant. Dans une longue séquence de désidéologisation des sociétés européennes, les fédérations politiques, les rassemblements politiques se sont beaucoup faits autour de personnes, voire de processus de starisation des candidats aux élections. On l'a observé un peu partout, pas simplement, si vous voulez, dans des régimes politiques comme le nôtre, qui ont des institutions assez présidentialisées. En Italie, le cas de Silvio Berlusconi que j'évoquais est très clair, mais on pourrait prendre d'autres exemples, y compris en Italie. Bon. Donc, il y a ce facteur-là. Chez nous, il y a en plus un contexte institutionnel qui le demande d'une certaine manière, l'attend, l'exige, puisqu'on a fait de l'élection présidentielle la clé de voûte de nos institutions, puisque c'est elle qui détermine la couleur du Parlement d'une certaine façon, puisque l'élection législative est devenue, parce qu'elle se joue dans la foulée de l'élection présidentielle, une espèce d'élection de confirmation. C'est une deuxième élection du président de la République, d'une certaine façon. Donc nos institutions ont, renforcé cette personnalisation de la vie politique. C'est pour ça qu'on a ces mouvements.
Désidéologisation. Est-ce que, justement, cette crise des Gilets jaunes, elle pourrait aboutir à ou bien la création d'un nouveau parti, ou bien une redécouverte, finalement, de la politique, avec des lignes de fracture, de clivage entre les différentes portions de la société, ce qui finalement pourrait être plutôt sain, Thierry Pêche.
Ça pourrait être très sain, encore faut-il que les Gilets jaunes aient envie d'entrer en politique. Ça serait, je pense, très sain, à supposer qu'ils aient envie de s'organiser, d'entrer dans une forme de rationalité de l'offre politique. Ce serait très sain parce qu'au fond, et c'est ce qui est intéressant dans ce mouvement, même si on peut en redouter les conséquences, et je fais partie de ceux qui s'inquiètent des conséquences de ce qui est en train de se passer, mais ce mouvement apporte quelque chose de positif, c'est que il fait entendre une France qui se fait rarement entendre. Il mobilise des gens qui se mobilisent très rarement. C'est une des caractéristiques de ce mouvement. Il donne la parole, la voix, la visibilité à des gens qui sont très souvent inaudibles, invisibles, silencieux, qui participent de façon intermittente. Qu'on aille au cran d'après et qu'on leur dise entrez en politique, préparez une liste pour les européennes, entrez dans la délibération démocratique, je trouve que ce serait pas inintéressant. Mais je vous dis, encore faut-il qu'ils aient envie de le faire. Pour le moment, ils refusent d'avoir des représentants, ils refusent le principe même de la représentation. Et ça ne va pas, si vous voulez. En tout cas, ça ne permet pas d'entrer en politique.
On va voir en tout cas quelles peuvent être les conséquences déjà sur l'inflexion de la politique du gouvernement, avec un certain nombre d'annonces sur les taxes, des taxes suspendues, supprimées, peut-être également une évaluation de l'ISF. Là aussi, il y a eu différents discours entre ce que disaient les ministres et ce que dit l'Élysée. On va se retrouver dans une dizaine de minutes, Thierry Pêche, pour évoquer ces questions. Je rappelle que vous êtes directeur du think tank Terra Nova. Notre invité, Thierry Pêche, qui dirige le think tank Terra Nova. Votre point de vue sur cette question de l'ISF?
Il y a en France une demande d'équité constante, singulièrement dans les moments de crise. C'est-à-dire que les Français demandent à ce que tout le monde participe et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui payent. Bon. L'ISF a été une des réponses à cette demande. D'abord sous la forme de l'IGF, puis enfin, l'histoire vient d'être racontée parfaitement. Donc on peut supprimer l'ISF, mais on ne peut pas supprimer la demande d'équité. Et donc la question n'est pas seulement est-ce que l'ISF est un bon impôt ou pas. Il avait des défauts, l'ISF. Il avait un gros défaut, par exemple, c'est qu'il taxait indifféremment la fortune jeune, l'outil de travail, l'investissement et la rente. La rente qui était précisément ce qu'il fallait taxer. Donc il faut aujourd'hui s'interroger. On peut supprimer l'ISF, mais il faut le remplacer par quelque chose si on veut satisfaire cette demande d'équité. Et donc, il faut s'interroger sur la meilleure façon de taxer le patrimoine et le capital, particulièrement quand on est, comme moi, progressiste de gauche.
Et alors comment pourrait-on...
On peut rétablir l'ISF, on peut le faire sans le dire en créant une espèce de surtaxe sur les très hauts revenus, intégrés à l'impôt sur le revenu. Alors, c'est plus le capital, c'est les revenus.
Ce qui n'est pas la même chose.
C'est pas la même chose, vous avez raison. Je pense que ce qui serait intelligent et juste, c'est de reprendre sur l'impôt sur les successions ce qu'on a perdu sur l'ISF. Et de le faire en touchant à la fois au barème, au taux, au-dessus d'un million d'euros de succession, par exemple, parce que c'est 1,3 million pour l'ISF, donc on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur, mais en touchant aussi aux abattements, ce qui est plus efficace techniquement. Et on pourrait assez rapidement retrouver là, de façon juste, y compris en faisant un petit cadeau à ceux qui sont au bord de l'impôt sur les successions, en disant, vous paierez pas, pour que tout le monde soit tranquille, mais on pourrait retrouver là les 2 ou 3 milliards qu'on a perdus sur l'ISF et dire aux Français, vous voyez, tout le monde participe.
Alors, cette piste autour des droits de succession, il y a par exemple eu un ouvrage, une étude de Nicolas Frémaux à La République des idées sur cette question des droits de succession et de l'héritage, où il était expliqué que les inégalités en France étaient bien souvent des inégalités acquises par voie d'héritage et précisément qu'il n'y avait pas de mécanisme suffisamment puissant. C'était en tout cas cette thèse-là qui était poursuivie pour tenter de les contrebalancer. Frédéric Saïs.
Oui, derrière l'arbre de l'ISF, si on peut dire, il y a aussi la forêt de la flat tax. Alors, c'est beaucoup moins simple à expliquer pour le grand public, c'est moins emblématique, c'est moins un totem. Ça a été une des premières décisions également d'Emmanuel Macron à côté de la suppression de l'impôt sur la fortune. Il y avait l'instauration de cette flat tax qui s'appelle le prélèvement forfaitaire unique. En très gros, ça consiste à taxer les revenus du capital à un taux unique de 30%, ce qui fait que finalement le multimillionnaire est taxé au même taux que le père de famille qui met un peu de côté ses économies. Là-dessus, Thierry Pêche, est-ce qu'il faut aussi revenir sur ce prélèvement forfaitaire unique qui lui aussi coûte beaucoup aux finances publiques et dont on parle beaucoup moins?
Écoutez, il faut trouver un bon équilibre entre la satisfaction d'une demande d'équité qui est légitime et la recherche de compétitivité française, et d'attractivité du site France. On est dans un monde où le capital mobilier porte bien son nom, il bouge, il est mobile. Si on taxe, c'est pour ça que je disais, il faut réfléchir aux meilleures façons de taxer le capital. Si on le taxe bêtement, il s'en va pour une partie.
Donc vous êtes plutôt favorable à ce prélèvement.
Je pense que ça n'est pas ridicule et que ça a attiré en France des investissements qu'on n'aurait pas si on n'avait pas fait ça.
Ce qui est très compliqué à dire.
Les gens ne seront pas mécontents qu'il y ait des entreprises qui créent des emplois. Donc, faut pas non plus négliger cet aspect-là. On peut le dire très tranquillement. Ce qui fait question, c'est pas tellement d'isoler tel ou tel impôt. C'est de dire, j'arrive au pouvoir, je supprime l'ISF, je fais la flat tax et je fais l'augmentation de la CSG sur les retraités. Pour le reste, on verra un petit peu plus tard. Et le reste, c'est justement ce qui aurait pu aider les gens modestes et moyens. Par exemple, les suppressions de cotisations salariales sur le chômage et l'assurance maladie. Par exemple, la taxe d'habitation. Ça vient d'entrer en vigueur. Les gens n'ont même pas eu le temps de s'en apercevoir. Il y a le mouvement des Gilets jaunes. C'est ça qui crée une distorsion d'équité, si vous voulez, dans l'action de ce gouvernement. Et je pense qu'il manquait un point d'équilibre dans le programme face à l'abandon de l'ISF, ce que j'ai dit juste avant. Et je pense aussi que cette désynchronisation, pour des raisons budgétaires qui étaient hautement contestables, a mis ce gouvernement à créer la réputation de président des riches.
Alors justement, pour faire le lien avec les Gilets jaunes, y a-t-il, selon vous, une baisse du consentement à l'impôt aujourd'hui dans la société française? Est-ce que ça se mesure?
Je ne suis pas sûr de ça. D'abord, c'est jamais agréable de payer des impôts. Personne n'en paye avec joie. On peut se sentir honoré de participer de cette façon à la vie collective, mais c'est pas un vrai plaisir. Bon, mais j'ai pas l'impression. Ce que j'entends moi des Gilets jaunes, c'est pas une contestation de l'impôt dans son principe. C'était, par exemple, dans un des premiers textes, une question qui est tout à fait intéressante. Ils disaient, écoutez, on va payer cette taxe carbone, mais manifestement, elle ne sert pas à la transition écologique. 20% seulement.
Très peu.
Bon, c'est une discussion qui n'a rien à voir avec le consentement à l'impôt. C'est une discussion qui porte sur l'efficacité de l'argent ainsi prélevé, sur ce qu'on en fait. Bon, donc, je pense qu'on a une très mauvaise fiscalité aussi. Je veux dire, les gens ont le droit de s'interroger là-dessus. On a une fiscalité qui est extrêmement complexe, très fragmentée, et qui en plus n'est pas très juste. Les gens s'élèvent contre des impôts indirects, que tout le monde paye, qu'ils soient riches ou pauvres.
Mais comme vous l'avez dit, Thierry Pech, l'idée d'Emmanuel Macron, de La République En Marche, c'était de montrer que la France était, je mets ça entre guillemets, pro-business, qu'on allait accueillir les entreprises, qu'on n'était plus dans le punitivisme. C'est d'ailleurs aussi une idée qui était présente dans l'esprit de François Hollande à la fin de son quinquennat dans les lois travail. Il y avait un peu cette atmosphère-là. Et s'il s'agit de toucher à l'ISF, c'est en quelque sorte ce symbole qui sera supprimé. C'est-à-dire que le côté accueil des entreprises qui devait marquer une rupture avec ce gouvernement, eh bien, il sera remisé ailleurs, au magasin des accessoires.
Non, je ne crois pas. On ne peut pas. À l'ISF, ça a été dit, c'est 4 milliards. Il reste 1 milliard de prélèvements sous la forme de l'IFI. On parle de 3
milliards. Impôt sur la fortune immobilière.
Bon. D'impôt sur la fortune immobilière qui porte bien son nom. Immobilière, c'est ce qui ne bouge pas, donc on peut y aller. C'est facile. Je ne pense pas qu'on puisse déduire de là que la politique du gouvernement ne va plus être pro-business ou que les entreprises seront moins bien accueillies. Je pense qu'on va trop vite, on monte trop vite en généralité. Je pense que ce qui est important, c'est de trouver une bonne balance, un bon équilibre entre la satisfaction de la demande d'équité qui a été mésestimée, sous-estimée, voire méprisée par ce gouvernement depuis 18 mois et l'attractivité, la compétitivité de l'économie française, qui concerne tout le monde, pas que les chefs d'entreprise, qui concerne aussi leurs salariés.
Aujourd'hui, cette colère fiscale, elle étonne par son ampleur, mais il y a un autre candidat qui proposait une réforme des taxes, et notamment François Fillon, une réforme de la TVA avec une hausse de la TVA. Alors là aussi, il y a eu des évolutions au cours de la campagne, mais on peut imaginer qu'un taux de TVA à 25%, en tout cas une augmentation du taux supérieur, puisqu'au départ il y avait aussi une augmentation du taux intermédiaire, cela aurait été probablement mal perçu par les Français, y compris peut-être même par son électorat. Thierry Pech.
Je pense que c'est pas très populaire l'idée d'une hausse de la TVA. Sarkozy en avait fait les frais, souvenez-vous, en 2007.
On l'appelait la TVA sociale.
Voilà, on avait beau l'appeler sociale, les gens avaient compris que ça voudrait dire payer plus cher un certain nombre de choses. Donc c'est pas populaire. Il y avait deux options, hein, si vous voulez, pour financer un certain nombre de choses, et notamment la protection sociale. Il y avait la TVA et puis il y avait la CSG. Bon. La CSG, manifestement, n'est pas plus populaire. Je crois que ce qui nous manque en France, il faudra un jour rouvrir cette question, c'est un grand impôt sur le revenu, à assiette large, progressif, qui fasse contribuer tout le monde, avec, comme on disait sous la Troisième République, une véritable égalité de sacrifice, disons égalité d'effort.
Frédéric Seitz. Plus globalement, cette annulation de la taxe, de la hausse des taxes, en tout cas sur le carburant pour l'année 2019, qu'Emmanuel Macron a donc décidé, c'est le premier vrai recul incontestable de ce quinquennat. Qu'est-ce que cela change, selon vous, Thierry Pech, pour la suite du quinquennat?
Alors, ça pose deux questions. Une question budgétaire, mais qu'on peut régler assez rapidement. Ça va coûter 4 milliards d'euros. La perspective de croissance n'est pas exactement aussi réjouissante que ce que pensait le gouvernement. On n'arrivera probablement pas à un 7, donc il va falloir boucher un trou qui risque d'être de 5 ou 6 milliards, je sais pas. Bon, mais ça, c'est pas impossible, c'est une question technique. Ils vont peut-être devoir baisser des dépenses publiques. Bon, ça, c'est... Sinon, il faut s'endetter, il faut creuser le déficit. Bon, ça, c'est la question budgétaire, si vous voulez. Puis vous avez une autre question qui est beaucoup plus politique, c'est quelle est la quantité de capital politique qui aura été brûlée dans cette affaire, et donc quelle sera, au sortir de cette séquence, la capacité de réforme de ce gouvernement.
Réponse.
Elle est probablement abîmée. Je ne sais pas jusqu'à quel point, mais elle est très probablement abîmée. Et ça pose une grande question sur les deux grandes réformes qui étaient sur l'horizon, les retraites, bien sûr, et puis la réforme de l'État.
Le regard des étrangers, des médias étrangers sur ce qui est en train de se dérouler en France, Camille Magnard, vous faites la revue de presse internationale chaque jour dans les matins de France Culture. Qu'avez-vous lu aujourd'hui dans la presse étrangère à ce sujet?
Alors il y a plusieurs temps, disons, dans la presse internationale sur ce sujet des gilets jaunes. Il y a avec le Financial Times, par exemple, la presse qui constate les premiers renoncements d'Emmanuel Macron face à cette crise unique et cette crise qui est la plus importante depuis ces 18 mois au pouvoir, comme le constate le Financial Times, avec donc la porte ouverte, selon le quotidien, vers un retour de l'ISF dont nous parlions à l'instant. Donc le constat qu'il y a cette crise qui finalement oblige Emmanuel Macron, c'est une surprise que constatent également les correspondants étrangers en France, à justement renoncer et à revenir en arrière sur cette détermination qu'il affichait depuis le début de son quinquennat. Et donc cette question qui est toujours posée dans la presse internationale, qui a un petit peu découvert les gilets jaunes ce samedi dernier et qui se demande toujours mais qui sont ces gilets jaunes qui arrivent à faire plier Emmanuel Macron et qui n'ont pas l'air décidés à vouloir s'arrêter là. Question qui se pose dans le Washington Post où on se demande également ce que cette crise des gilets jaunes nous dit sur Emmanuel Macron, sur les difficultés qu'il rencontre. Et puis pour y répondre, il y a ce très intéressant article reportage d'Adam Nociter, correspondant du New York Times et fin connaisseur de la société française depuis des années. Lui, dans son article, essaye de déconstruire un amalgame qui pourrait être facile vu de loin et qui a été également celui qui a un petit peu agité la presse française au début de ce mouvement, qui est de distinguer les gilets jaunes des autres mouvements populistes que l'on a pu voir émerger à travers le monde ces derniers mois et ces dernières années. Adam Nociter a passé du temps sur les barricades et sur les ronds-points avec ces gilets jaunes. Il connaît bien la situation politique française et européenne et il nous explique que voilà, il ne faut pas tomber dans cet amalgame-là, que ces gilets jaunes, ils sont là avant tout au-delà des revendications dont on a pu parler sur les questions fiscales et sur les questions des carburants, qu'il y a vraiment un rejet des institutions, qu'il y a une remise en cause des corps constitués, que ce soit à la fois les gouvernements, les partis ou les syndicats, et qu'il y a donc cette incapacité de tout ce système-là, tel qu'il est désigné par les manifestants, à entendre les difficultés de la population. Et donc ce mouvement, nous dit Adam Nociter dans le New York Times, n'est pas un mouvement populiste tel qu'on a pu le voir ailleurs, tout simplement parce qu'il n'est pas rattaché à un parti politique, encore moins un parti d'extrême droite. Selon lui, il n'est pas concentré sur la question nationaliste et sur la question de l'immigration, ce qui n'apparaît pas dans la liste de revendications des gilets jaunes, nous dit Adam Nociter. Il n'est pas mené par un seul leader, comme on a pu le voir par exemple à l'époque en Italie, ce qui a donné lieu à la création du mouvement 5 étoiles. Donc ce soulèvement-là est beaucoup plus organique, c'est ce que nous dit Adam Nociter, et il faut faire attention à ne pas l'assimiler avec ce qu'on a pu voir dans d'autres pays du monde. À lire Adam Nociter, on a l'impression, en fait, Thierry Pêche, vous allez nous dire ce que vous en pensez, mais que c'est un mouvement, finalement, un mouvement plutôt de gauche.
Thierry Pêche.
On est dans un pays où la demande de justice et d'équité n'est pas seulement une demande de gauche. C'est une idée de gauche qui est dans à peu près tous les esprits. Et c'est peut-être une erreur d'un certain nombre de politiques de penser que parce que la France serait plus à droite qu'autrefois, elle serait indifférente à la justice. Mmh. Ce n'est pas vrai. On est là dans la couche assez culturelle du pays et dans notre histoire longue.
Frédéric Saïs.
On a entendu aussi parmi les reproches chez les Gilets jaunes le déficit de souveraineté populaire. Nous votons, ou pas d'ailleurs, une fois tous les 5 ans, disent-ils, et pendant ce temps, les décisions se font sans nous, voire contre nous. Qu'est-ce que vous proposez à Terra Nova pour combler ce déficit de souveraineté populaire s'il existe?
C'est pas un déficit de souveraineté qui est décrit quand on dit on vote tous les 5 ans et dans les intervalles du suffrage, personne ne nous écoute. C'est un déficit de délibération démocratique, de continuité de la discussion collective. Dans une démocratie, l'élection a bien sûr une place. Mais la démocratie ne se résume pas à l'élection, c'est tout le sens de l'œuvre de Pierre Rosanballon. Bon. Et donc je pense qu'il faut faire droit à une demande de délibération collective élargie et faire droit aussi à l'existence du débat politique au sein de nos institutions. Moi j'ai grandi dans un monde où au gouvernement il y avait des débats. Souvenez-vous, dans le gouvernement Jospin, Elisabeth Guigou et Jean-Pierre Chevènement n'étaient pas d'accord. Alors, il y avait les sauvageons d'un côté, il fallait frapper dur, il y avait l'insertion de l'autre.
Mais qui disait qu'un ministre...
Ça démissionne ou ça ferme sa gueule, finis la phrase pour vous. C'était une époque où il y avait des débats entre le Premier ministre et le Président de la République, et puis il y avait des débats au Parlement, et ça n'empêchait pas le pays d'être gouverné. Aujourd'hui, on a le sentiment que si une oreille bouge, l'édifice tremble. C'est absurde. C'est absurde parce qu'en plus, si vous voulez, si vous n'avez pas ce débat politique dans les institutions, eh bien, vous avez des gens qui ne se sentent jamais représentés, qui se disent « mais moi, ma colère, qui la porte ?» Qui la formule, qui la parle. Et donc c'est très important de réintroduire du débat politique, y compris dans nos institutions, dans les intervalles du suffrage.
Et alors ce qui complexifie en fait la lecture...
Je n'ai pas répondu complètement à la question, il me demandait qu'est-ce que vous proposez à Terra Nova pour ça.
Vous faire remarquer.
Je vois le sourire de notre ami. écoutez, on n'a pas fait de proposition récemment sur ce sujet, mais on est en train d'y travailler, donc on en fera très bientôt.
Ce qui complexifie la lecture de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'en fait on a... plusieurs strates. Il y a les gilets jaunes qui sont sur les ronds-points, il y a ceux qui sont sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, puisque on l'a vu dès hier, il y a une forte présence des gilets jaunes sur Facebook. Alors, sont-ce les mêmes que ceux que l'on trouve sur les ronds-points? C'est encore une autre question. Et puis, on a aussi des leaders qui, là aussi, sont très différents les uns des autres, puisqu'on a vu qu'il y avait des gilets jaunes libres, certains appellent à la fin du mouvement, d'autres, au contraire, à sa radicalisation. C'est le cas, par exemple, de l'un d'entre eux, Éric Drouet, c'était hier soir sur BFM.
Vous dites très précisément que samedi, donc dans 3 jours, ce sera l'aboutissement final. Samedi, c'est l'Élysée. On aimerait bien aller tous à l'Élysée. Il faudrait vraiment que samedi, on soit tous unis jusqu'au bout et qu'on avance en direction de l'Élysée. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un putsch que vous voulez faire?
Non, mais tous les gens veulent aller là-haut. Hmm, c'est le symbole de ce gouvernement.
Oui, les gens veulent y aller, tout à fait.
Donc, pour faire quoi?
Moi, j'ai vécu les 3 samedis.
Non, mais pour faire quoi? Vous arrivez devant l'Élysée, vous faites quoi?
On rentre dedans.
Vous rentrez dedans. Donc, oui. Non, mais que les choses soient claires.
Votre réaction, Thierry Pêche?
Quand on veut faire de la politique, il faut dépasser le stade de la colère. Et là, on ne l'a pas vraiment dépassé. Et c'est dommage pour les gens qu'il aspire ou qu'il prétend représenter, ce monsieur.
Alors on n'est pas sûr d'ailleurs qu'il les représente.
On n'en est pas du tout sûr, en effet. D'ailleurs, je pense que ce mouvement n'a pas de leader constitué légitime aujourd'hui, ou alors des leaders autoproclamés. Donc je pense que ça n'est pas responsable, ça n'a pas de sens de s'exprimer comme il le fait, rentrer dans l'Élysée, et le journaliste a raison de lui dire. Et après? Et alors?
Alors, le journaliste, en l'occurrence, c'était Bruce Toussaint.
Bruce Toussaint sur BFM TV. En l'occurrence, ce que dit Éric Drouet, effectivement, semble quasiment à la limite du putschisme, pourrait-on dire. En revanche, il y a une idée...
Non, mais dans le putschisme, non, c'est pas vrai. Pardon, vous coupez.
On entre dans l'Élysée, on déloge Emmanuel Macron, pardon.
Oui, d'accord, mais le putschisme, ça consiste à prendre le pouvoir. Et il vous dit même pas ça.
Ah, il vous dit même pas ça, précédent.
Bon. Il ne vous dit même pas ça, Drouet. Non, il vous dit, on rentre dans l'Élysée, voilà. On a cassé un symbole. Et ensuite?
Alors, au-delà de ça, il y a quand même beaucoup d'études qui montrent que dans la plupart des pays occidentaux, il y a l'idée qui se développe que la démocratie n'est pas forcément le meilleur des systèmes. C'est quelque chose qui monte. Comment vous le mesurez-vous à la Fondation Terra Nova? Et est-ce que selon vous, c'est un danger ou c'est finalement quelque chose comme ça qui va passer?
Je pense que le débat n'est pas sur la démocratie n'est pas le meilleur des systèmes et donc voilà les systèmes alternatifs autoritaires donc ou autocratiques qui seraient meilleurs. Le débat est entre démocratie libérale et démocratie illibérale. Je rappelle que même des gens comme Poutine sont élus. Erdogan est élu. Donc Orban est élu. Mais il conteste l'idée que la démocratie soit autre chose qu'un plébiscite. Bon. C'est là qu'il est le débat. Moi, je considère que la démocratie, elle existe aussi dans vos fonctions de journaliste, par exemple. Vous savez, Napoléon III disait aux journalistes, mais qui vous a élu, vous ? Qui vous autorise à parler ? Moi, j'ai été élu, pas vous. Bon, eh bien moi je pense, c'est ce qui explique bien Rosan Ballon dans un de ses livres, que les journalistes sont aussi des représentants de la démocratie, parce qu'ils sont dans les intervalles du suffrage ceux qui sont l'œil ouvert en continu sur les pratiques du pouvoir. Et ça, c'est aussi une fonction du peuple. Le peuple n'a pas seulement une bouche, il a aussi un œil, et cet œil est ouvert, et cet œil, c'est le journalisme. Bien, et donc il faut défendre la démocratie libérale, comme forme démocratique et pas simplement comme expression du libéralisme. C'est ça que j'essaye de vous dire.
Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous dites, Thierry Pêche, que les journalistes sont aussi des représentants de la démocratie, en tout cas de cette démocratie libérale-là, qu'ils sont attaqués, là aussi par certains gilets jaunes, il ne s'agit pas de faire de généralisation, avec une vision assez complotiste des choses que l'on trouve, par exemple, dans des Facebook Live. Voici un extrait de l'un de ces Facebook Live. Écoutez.
Ils servent à rien, nos syndicats. C'est juste, avant, on avait 5 coups de fouet quand on travaillait. Maintenant, ils disent que t'en auras que 4. Et quand tu dis un syndicaliste, tu sers à quoi? Tu dis, ah ben, moi, je suis là pour t'aider. Mais surtout pour bien te parasiter ta vie, quoi, en tous les cas. Comment même on peut parler d'homme politique? C'est comme un tic, un homme politique. Il ne sert à rien. Il sert simplement à servir la cause de la mafia casa, les sionistes. C'est eux qui tiennent le monde moderne depuis 500 ans. Le syndicalisme, c'est une énorme gageure à notre propre prospérité, à nous. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. J'aurais bien voulu ton neuvième, là, passer à la télé et leur expliquer un peu cette gageure qu'on est en train de nous faire. C'est du vol humain, ce qu'on est en train de nous faire. On nous vole notre vie à chaque seconde, en réalité. C'est pas comme ça qu'il faut agir, c'est attaquer nos merdias. Là-dessus, j'en démords pas. Mais dans chaque région de France, si vous avez un bureau, une antenne, d'antenne de France 2, de TF1, de BFM, il faut les attaquer.
Voilà, ça c'est un extrait, par exemple, d'un Facebook Live sur le forum de la France en colère. Là aussi, on voit quand même un certain nombre de tendances qui, pour les propos qui sont tenus, Thierry Pêche relève très clairement d'une expression fascistoïde de la réalité.
Oui, bah, c'est le problème de cet espace public qui est en train de se dessiner. C'est-à-dire, c'est un espace où les passions sont sans limite, sans filtre, et où, étant sans filtre et se rencontrant, elles se démultiplient et s'amplifient les unes les autres. Un espace public, c'est pas une place publique. C'était ça la pensée des révolutionnaires. La place publique, les affects, ils sont présents, s'y frottent, s'y confrontent. L'espace public, c'est un espace où s'affrontent des opinions. Des idées, des commentaires, les passions ne sont pas absentes, mais en tout cas, ça n'est pas un espace de confrontation violente. Or, ce que vous avez fait entendre à l'instant, c'est un espace public de confrontation violente. Je ne suis pas sûr que la personne qu'on vient d'entendre soit capable d'écouter les autres. Ce qu'elle dit, très bien, elle le dit, mais est-ce qu'elle est capable d'écouter ?
Un mot de conclusion, Thierry Pêche, que va-t-il aujourd'hui arriver, quelle manière a-t-on aujourd'hui d'imaginer les réactions à la fois de ceux qui sont en colère? Il y a de plus en plus, par exemple, de lycées bloqués aujourd'hui, peut-être aussi d'universités.
Eh bien, on a commencé l'émission, l'entretien par là. Je disais, on était dans une crise sociale qui est devenue une crise politique, d'où pourrait surgir une crise de régime. La coagulation des colères, d'une certaine manière, qui n'ont rien en commun que leur colère, souvent, malheureusement, peut conduire au pire, peut conduire à une situation incontrôlable sur le plan politique, civil et même, dans certaines villes, sécuritaire. Il faut tout faire pour que ça n'arrive pas. Mais ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive pas aujourd'hui suppose de la part du pouvoir en place une forme de radicalité dans la décision, l'initiative que je ne vois pas se former. Et c'est ça qui m'inquiète. Vous savez, dans les crises sociales, on le disait aussi, comme celle-là, les idées qui vous paraissaient excessives, déraisonnables, une semaine plus tôt, vous paraissent insuffisantes la semaine suivante. Donc aujourd'hui, le moratoire la semaine dernière paraissait aux décideurs une reculade invraisemblable. Et aujourd'hui, ça semble ne pas suffire. Est-ce que la semaine prochaine, le limogeage du Premier ministre paraîtra insuffisant ? voyez, on peut se poser ce genre de questions. Et donc voilà, je pense qu'il faut une initiative radicale qui ait du sens et qui soit crédibilisée par un geste politique fort.
Merci beaucoup Thierry Pech. Je rappelle que vous dirigez le think tank Terra Nova et merci